Quand ils furent lavés et vêtus et eurent pris un léger repas, les hobbits suivirent Gandalf. Ils sortirent de la hêtraie où ils avaient dormi et passèrent à une longue pelouse verte, éclatante de soleil et bordée par des arbres majestueux au feuillage sombre, chargés de fleurs écarlates. Derrière eux montait le son d'une chute d'eau, et un ruisseau coulait devant eux entre des berges fleuries, avant d'atteindre un bosquet vert au bas de la pelouse. Ils passaient sous un berceau d'arbres, à travers lesquels ils apercevaient un lointain miroitement d'eau. Comme ils parvenaient à l'orée du bois, ils furent surpris de voir des chevaliers en mailles brillantes et de grands gardes qui se tenaient là, vêtus d'argent et noir, les accueillant avec honneur et s'inclinant devant eux. Puis l'un d'eux sonna d'une longue trompette et ils descendirent l'allée d'arbres auprès du ruisseau chantant. Ils débouchèrent ainsi dans un grand pré verdoyant et plus loin s'étendait une large rivière couverte de brumes argentées d'où émergeait une longue île boisée aux rives chargées de navires. Mais dans le champ où ils se trouvaient était assemblée une grande armée, ses rangs et ses compagnies étincelant au soleil. Et comme les hobbits approchaient, les épées furent tirées et les lances secouées. Les cors et les trompettes chantèrent, et les hommes s'écrièrent en un chœur de voix et en plusieurs langues. « Vive les demi-hommes! Louez-les avec de grandes louanges! Quio i ferian anan, aglar ni ferianath! Louez-les avec de grandes louanges, Frodo et Sam Saget! Daur aberael, conin en anun e glerio! Louez-les! Eglerio, alaitate, laitate, andave, laituvalmet, louez-les. Corma colindor, alaitatariena, louez-les, les porteurs de l'anneau, louez-les avec de grandes louanges. Ainsi, le visage empourpré de sang et les yeux souriants d'émerveillement, Frodo et Sam s'avancèrent et virent qu'au milieu de la foule en liesse étaient disposés trois sièges d'honneur faits de gazon vert. Derrière le siège de droite flottait, blanc sur vert, un grand cheval courant librement. Et à gauche était une bannière d'argent sur fond bleu, un navire en forme de cygne faisant voile sur la mer. Mais derrière le plus haut trône et au milieu des trois, un grand étendard s'agitait dans la brise. Et là, un arbre blanc fleurissait en champ de sable, surmonté d'une éclatante couronne et de sept étoiles scintillantes. Sur le trône était assis un homme vêtu de mailles, une longue épée posée en travers de son giron, mais il ne portait aucune coiffure. Comme ils approchaient, il se leva. Et c'est alors qu'ils le reconnurent, tout changé qu'il était, si noble de traits et radieux de visage, royal, le seigneur des hommes, aux cheveux sombres et aux yeux gris. Frodo courut à sa rencontre et Sam lui emboîta le pas.
« Eh bien, pour couronner le tout, » dit-il, « c'est l'arpenteur, ma foi, ou bien je rêve encore ?»«
Oui, Sam, l'arpenteur, » répondit Aragorn. « N'est-ce pas un long chemin depuis Brie où vous n'aimiez pas trop mon apparence ? Un long chemin pour nous tous, mais votre route fut la plus sombre. » Sur ce, à la surprise de Sam et à sa grande confusion, il plia le genou devant eux. Puis, les prenant par la main, Frodo sur sa droite et Sam sur sa gauche, il les mena au trône et, les ayant priés de s'asseoir, il se tourna vers les hommes et les capitaines qui se tenaient là et parla d'une voix qui s'entendit à travers les rangs, criant
« Louez-les avec de grandes louanges !»
Et quand les cris d'allégresse se furent gonflés et tus, à la satisfaction la plus complète de Sam et pour sa plus grande joie, un ménestrel du Gondor s'avança, mit un genou en terre et demanda la permission de chanter. Et voici, il s'écria.
Oyez, seigneurs et chevaliers, hommes de valeur incontestée, rois et princes, belles gens du Gondor et cavaliers du Rohan, et vous, fils d'Elrond et d'Unedain du Nord, elfes et nains et grands cœurs du comté, et vous tous, gens libres de l'Ouest, écoutez mon lait. Car je vous chanterai l'histoire de Frodo aux neuf doigts et l'anneau du destin. »
Et Sam, entendant cela, se mit à rire de pur enchantement, et il se leva et cria
Ô grande gloire et splendeur, et tous mes désirs se sont réalisés !»
Puis il pleura. Et toute l'armée rit et pleura. Et parmi la joie et les pleurs, la voix claire du ménestrel s'élevait comme un tintement d'argent et d'or, et tous firent silence. Et il leur chanta tantôt en langue elfique, tantôt dans le parler de l'Ouest. Et bientôt leurs cœurs, blessés par des mots délicieux, débordèrent. Leur joie saillit comme des épées, et ils glissèrent en pensée à des régions où la douleur et le plaisir coulent de pair, et où les larmes sont le vin même de la félicité. Et tandis que le soleil déclinait du midi et que les ombres des arbres s'allongeaient, il termina enfin son chant. « Louez-les avec de grandes louanges !» dit-il, s'agenouillant. Puis Aragorn se leva, et toute l'armée fit de même. Et ils passèrent dans des pavillons dressés pour l'occasion, pour manger, boire et se réjouir tant qu'il ferait jour. Frodo et Sam furent conduits séparément jusqu'à une tente où leurs vieilles hardes furent retirées, mais on les plia et les rangea avec honneur, et on leur donna du linge propre. Puis Gandalf arriva, tenant dans ses bras, au grand étonnement de Frodo, l'épée, la cape elfique et la cotte de Mithril qui lui avait été dérobée au Mordor. Il remit à Sam une cotte de mailles dorées, et sa cape elfique guérit des souillures et des dommages qu'elle avait subis. Puis il déposa deux épées devant eux.
« Je ne désire aucune épée, » dit Frodo.
« Ce soir, au moins, vous devriez en porter une. »
Frodo prit alors la petite épée qui avait appartenu à Sam, retrouvée près de lui à Kerith Ungol.
« Dar, je te l'ai donnée, Sam, » dit-il. « Non, maître, Monsieur Bilbo vous l'a donnée à vous, et ça va avec sa chemise d'argent. Il voudrait voir personne d'autre le porter aujourd'hui. »
Frodo se rendit à ses arguments. Et Gandalf, comme s'il était leur écuyer, s'agenouilla et les ceignit chacun de la ceinture qui porterait l'épée, puis, se relevant, il passa un cercle d'argent autour de leur front. Et quand ils furent tout apprêtés, ils se rendirent au grand festin, et ils prirent place à la table du roi avec Gandalf, et le roi Éomer du Rohan, et le prince Imrahil, et tous les grands capitaines, et Gimli et Legolas étaient là également. Mais quand, après le silence debout, on apporta du vin, arrivèrent deux écuyers qui devaient servir les rois, du moins à ce qu'il semblait. L'un était vêtu de l'argent et noir de la garde de Minas Tirith, et l'autre de blanc et vert. Mais Sam se demanda ce que faisaient d'aussi jeunes garçons au sein d'une armée de robustes soldats. Puis quand ils se furent assez approchés pour lui permettre de les voir clairement, il s'exclama soudain
« Et regardez, monsieur Frodo, regardez un peu, c'est notre ami Pipin, monsieur Pérégrin Touc, devrais-je dire, et monsieur Merry, comme ils ont grandi, ma parole, mais je vois qu'il y a d'autres histoires que la nôtre à raconter. »
« Pour ça, oui, »
dit Pipin en se tournant vers lui.
« Et on commencera sitôt que ce festin sera fini. En attendant, tu peux t'essayer avec Gandalf. Il n'est plus aussi fermé qu'avant, même s'il rit maintenant plus qu'il ne parle. Pour l'heure, Merry et moi sommes occupés. Nous sommes des chevaliers de la cité et de la marche, comme vous l'aurez remarqué, j'espère. »
Enfin, ce jour heureux se termina. Et quand le soleil fut parti, et que la lune ronde monta lentement au-dessus des brumes de l'Anduin, clignotant parmi les feuilles, Frodo et Sam s'assirent sous les arbres murmurant dans la fragrance du bel Ithilienne. Et ils parlèrent jusque tard dans la nuit avec Merry et Pipin, et Gandalf, et bientôt Legolas et Gimli les rejoignirent. Frodo et Sam surent alors une bonne partie de ce que la compagnie était devenue après l'éclatement de leur fraternité, en ce jour funeste à Path Galen, près des chutes du Rauros. Mais il y avait toujours plus de questions à poser et de réponses à apporter. Des orques, des arbres parlants, des étendues d'herbe et des cavaliers au galop, des cavernes scintillantes, des tours blanches et des salles dorées, des batailles et de grands navires sur l'eau, toutes ces choses défilèrent dans l'imagination de Sam et le laissèrent abasourdi. Mais entre toutes ces merveilles, il revenait toujours à la taille de Merry et Pipin qui n'en finissaient plus de le surprendre. Et il les fit mettre dos à dos avec Frodo et lui-même.
À votre âge, c'est à n'y rien comprendre,
dit-il.
Une chose est sûre, vous mesurez 3 pouces de plus que vous devriez, ou alors je suis un nain.
Ah ça, je vous jure que non, dit Gimli. Mais qu'est-ce que je disais? Des mortels ne peuvent ingurgiter des breuvages d'Ent en pensant n'y trouver rien de plus que dans un pot de bière.
Des breuvages d'Ent?
Fit Sam.
Voilà que vous recommencez avec vos Ent. Mais j'ai toujours pas idée de ce que c'est. Ma foi, il va falloir des semaines pour vider la question.
Des semaines, oui,
dit Pipin.
Et puis, il faudra enfermer Frodo dans une tour de Minas Tirith pour qu'il puisse tout mettre par écrit. Sinon, il en oubliera la moitié, et le pauvre Bilbo sera terriblement déçu.
Enfin, Gandalf se leva.
« Les mains du roi sont des mains guérisseuses, chers amis, dit-il. Mais vous étiez au seuil de la mort quand il vous a rappelé, déployant tous ses dons pour vous donner l'oubli et la douceur du sommeil. Et bien que vous ayez dormi longuement et dans le plus parfait bien-être, il est temps néanmoins de retourner dormir.
Et pas seulement pour nos amis Sam et Frodo, dit Gimli, mais pour vous aussi, Pipin. Je tiens à vous, ne serait-ce que pour les peines que vous m'avez causées et que je n'oublierai jamais. Pas plus que je n'oublierai vous avoir trouvé sur la colline de la dernière bataille. Sans Gimli le nain, vous y seriez resté. Mais au moins je puis maintenant reconnaître un pied de hobbit sous un amas de corps, quand bien même ce serait la seule chose qui dépasse. Et quand j'eus soulevé cette grande carcasse qui vous écrasait, j'eus au fait de m'assurer que vous étiez bien mort. J'aurais pu m'arracher la barbe. Et il y a à peine un jour que vous êtes sorti du lit et de nouveau sur pied. Retournez-y, et je vais faire de même.
Quant à moi, dit Légolas, je vais marcher dans les bois de cette belle contrée, ce qui est un repos suffisant. Dans les jours à venir, si mon seigneur elfe le permet, quelques-uns de nos gens viendront s'y installer. Et quand nous viendrons, elle sera bénie pour un temps. Pour un temps. Un mois, une vie, ou 100 années des hommes. Mais l'Anduin est proche, et l'Anduin conduit à la mer. À la mer. À la mer, les mouettes blanches crient. Je sens le vent souffler, blanche vole l'écume. À l'ouest, au loin, à l'ouest, le soleil rond décline. Navire, ô gris navire, l'entends-tu appeler? La voix de tous les miens, ceux qui m'ont précédé. Je vais quitter les bois où je suis né. Je franchirai les eaux, vastes et solitaires. Au-delà de la mer, sur le dernier rivage, doux est le son des voix, longues roulent les vagues. Dans cette île perdue, dans la patrie des elfes, au cœur d'Erecea, où ne vient aucun homme, où ne tombent jamais les feuilles des années, pays de tous les miens pour toute éternité. Et Légolas s'en fut en chantant ainsi, descendant la colline. Alors les autres se séparèrent, et Frodo et Sam regagnèrent leur lit pour dormir. Et au matin, ils s'éveillèrent de nouveau dans l'espoir et la paix, et ils passèrent de nombreux jours en Ithilienne. Car le champ de Cormallen, où l'armée était en cantonnement, se trouvait non loin de Eneth Anun, et le torrent qui coulait de ses chutes bruissait dans la nuit en passant son écluse rocheuse, traversant alors les prés fleuris jusqu'au flot de l'Anduin, près de l'île de Caer Andros. Les hobbits se promenèrent ici et là, visitant de nouveau les endroits où ils étaient déjà passés. Et Sam, sous un ombrage des arbres ou dans une clairière secrète, espérait toujours entrevoir, peut-être, une dernière fois, le grand Olifant. Et quand il sut que le siège du Gondor avait vu bon nombre de ses bêtes, mais que toutes avaient été tuées, il trouva que c'était bien dommage.
« Enfin, on peut pas être partout à la fois, »
dit-il.
« Mais j'ai manqué bien des choses, on dirait. »
Entre-temps, l'armée s'apprêtait à rentrer à Minas Tirith. Les plus fatigués se reposaient, tandis qu'on guérissait les blessés. Car d'aucuns avaient beaucoup peiné et combattu contre le reste des Orientais et des Sudrons, jusqu'à ce que tous se soumettent. Et pour finir, revinrent ceux qui étaient entrés au Mordor afin de détruire les forteresses dans le nord du pays. Mais un beau jour, alors que le mois de mai approchait, les capitaines de l'Ouest se remirent en route. Et ils s'embarquèrent à Caer Andros avec tous leurs hommes, et descendirent l'Anduin jusqu'à Osgiliath, où ils demeurèrent une journée. Et le lendemain, ils parvinrent aux champs verdoyants du Pélénor et contemplèrent de nouveau les tours blanches sous le haut Mindoluin, la cité des hommes du Gondor, dernier souvenir de l'Occidental ayant traversé le feu et les ténèbres pour voir un nouveau jour. Et là, au milieu des champs, ils dressèrent leur pavillon et attendirent jusqu'au matin. Car on était à la veille de mai, et le roi entendait franchir ses portes au lever du soleil.